9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM. Sur Beurre FM.
Bonjour à tous, bonjour à toutes, merci d'être à l'écoute de Beurre FM. Comme chaque dimanche, c'est Voix au chapitre. Je rappelle que ce mois de septembre est consacré à la rentrée littéraire. Oblige. Près de 400 ouvrages sont sur les étals de libraires. On a commencé la semaine dernière avec l'ouvrage de Kaouter Hadimi. C'était Au vent mauvais, un livre qui est paru aux éditions du Seuil. Le plaisir de présenter un autre ouvrage ce matin et surtout d'accueillir Fantadramé. Bonjour.
Bonjour.
Vous venez de publier Ajar Paris. Ce livre vient de paraître dans cette rentrée littéraire aux éditions Plon. Et c'est un grand plaisir de vous recevoir. C'est un premier roman. Oui. On le dit comme ça aujourd'hui. Mais je pense que derrière ce premier roman, avant ce premier roman, il y a beaucoup de temps d'écriture. On reviendra justement sur votre écriture. Vous présentez d'abord, vous êtes né à Paris en 1987. Après un master de lettres modernes, vous obtenez le CAPES, c'est pas rien quand même. Et vous enseignez aujourd'hui en Seine-Saint-Denis. C'est dans le cadre de ces cours en vue d'organiser un atelier d'écriture avec vos élèves que vous rencontrez une merveilleuse romancière, Faïza Yen, que nous aimons beaucoup ici à Beurre FM, à qui vous demandez conseil pour votre manuscrit, et elle a bien fait, Ajar Paris, et votre premier roman, et il vient de paraître. Alors voilà pour vous présenter, peut-être justement sur cette écriture, avant d'entrer dans l'ouvrage, et tout ce que porte justement ce titre, Ajar Paris, Ajar Mauritanie, Paris c'est bien ici, l'impression d'un livre de voyage, mais il est un voyage aussi dans l'histoire de votre famille et de votre père en particulier, on y reviendra. Cette écriture, comment vous l'avez avancée dans votre vie ?
J'ai toujours aimé écrire, mais c'est vrai que j'avais pas forcément de sujet qui me poussait à me plonger vraiment dans un vrai texte. Et quand je suis rentrée d'Ajar, j'ai commencé à questionner mon père sur son histoire. Je ne savais pas du tout quelle forme allait prendre. Je savais que j'allais mettre par écrit ce qu'il me raconterait, mais je ne savais pas du tout quelle forme prendrait cet écrit. Ça allait juste être un échange, un dialogue entre un père et une fille, etc. Et finalement, je pense que la forme du roman s'est imposée, tant l'histoire est, à mon sens, romanesque.
Alors, vous êtes déjà entré dans le livre, et c'est très bien, parce qu'on parle de roman, mais il est question de récit, en réalité, puisque vous venez de le dire, c'est un dialogue entre vous et votre père, et puis c'est le questionnement que vous avez eu de connaître son histoire et celle en deux mots, sans raconter le livre, je le répète, c'est l'histoire d'un homme, votre père, qui va quitter la Mauritanie, qui va de la Mauritanie aller au Sénégal, du Sénégal qui fait traverser la Méditerranée, se retrouver à Marseille d'abord, puis ensuite à Paris, et voilà le long fleuve, pas si tranquille que ça, ouais, que connaissent ces hommes dans l'histoire migratoire, on y reviendra. Donc, vous questionnez votre père, vous le questionnez à un moment précis de votre roman. C'est le livre commence d'ailleurs sur cette grande tristesse que vous avez, puisque c'est la mort de votre grand-mère qui vivait avec vous à Paris. Et la grand-mère va être rapatriée au pays pour son enterrement. Et vous questionnez là, vous commencez là à vous interroger sur... Vous êtes à Ajar et vous commencez là à questionner un peu votre histoire en vous demandant comment ce que vous venez de dire, vous allez interroger votre père sur son histoire. Et peut-être que, plus qu'en pas, vous le développerez, mais j'avais envie aussi de rappeler comment vous dites à votre père et à quel moment vous dites à votre père que vous allez le questionner sur son histoire. Et c'est justement en revenant d'Ajar, je crois, oui,
c'est ça,
précisément, que vous allez lui dire. Et lorsque vous êtes à Ajar, après l'enterrement, vous regardez votre père et là vous vous dites je vais lui demander pourquoi il a quitté Ajar.
C'est ça, exactement. C'est vrai que Ajar, c'est un village qui est totalement hors de toute modernité. Et je me pose une question qui est toute simple, c'est comment est-ce que mon père a pu vivre déjà 26 ans dans ce petit village reculé de Mauritanie, et comment il a pu ensuite s'intégrer à la société française. Et c'est vrai que c'est deux mondes tellement différents que vraiment je me demandais quel était... Enfin, le trait d'union de ce titre, du titre, Ajar Paris, je voulais vraiment raconter ce qui se passait dans ce trait d'union, parce que on a l'impression que c'est juste quitter un village pour une ville. C'est pas du tout ça. C'est quitter un monde pour un autre totalement différent. C'est abandonner quelque part une vie pour essayer d'en construire une autre ailleurs. Et ça m'intéressait de savoir comment ça s'était passé parce que je n'avais jamais eu connaissance de cette histoire.
Donc vous êtes encore à Ajar, je l'ai dit, et vous écrivez ceci. Au loin, j'aperçus mon père. Je l'observais, me demandant s'il avait gardé quelques repères dans les terres qu'il avait vues naître, ou si, avec le temps, il avait fini par s'y sentir étranger. Il les avait quittés depuis près de 40 ans. Pourtant, on avait le sentiment qu'il y avait toujours vécu, tant il était à l'aise. Mais lui était à l'aise partout, aussi bien dans le désert mauritanien que dans les faubourgs parisiens. En rejoignant ce qui me servait de chambre, les images d'Ajar défilaient dans mon esprit. Aucun indice ne pouvait laisser penser qu'on vivait au XXIe siècle. Et puis, tournant la tête, je vis près de l'unique prise murale une douzaine d'iPhones qui attendaient d'être chargés. Voilà pour raconter aussi l'univers un peu d'Ajar, donc, que vous avez déjà décrit, sur évidemment le grand écart qu'il y a avec ce qu'il va connaître quand il va faire cette traversée. Donc, vous tournez vers lui aussi et vous lui dites, c'est le début du chapitre, « Je vais écrire ta vie, papa ». Et lorsque vous lui dites ça, il vous répond, mais qu'est-ce que tu vas raconter? Tout. Ton enfance et ton adolescence à Ajar, pourquoi tu as décidé de partir, ton arrivée à Paris, notre arrivée dans ta vie aussi, tout. Depuis 1949 jusqu'à aujourd'hui, tout. Et alors, est-ce qu'il va tout vous raconter, votre père?
Non, parce que déjà, il appartient à une culture où la pudeur est maîtresse, si vous voulez, et on ne raconte pas forcément tout à ses enfants. Et puis, je pense aussi qu'il ne me raconte pas tout parce que ça a été un exil qui n'a pas forcément été facile. Et c'est très compliqué, je pense, de montrer ses faiblesses à ses enfants, surtout quand on a toujours montré l'image d'un homme sûr de soi.
Donc, il y a les faiblesses et il y a la douleur aussi de l'exil.
Exactement, parce que quand mon père quitte Ajar, il part tout seul. Il a 26 ans, il ne sait pas lire, pas écrire le français parce qu'il a eu une éducation. Il a fait l'école coranique, donc il a eu une éducation en arabe. Et il part en ayant déjà la douleur de quitter ses terres et de quitter sa famille. Et surtout avec le poids de devoir réussir. Il n'a pas le choix en fait. Quand il quitte Ajar, il est obligé de réussir à Paris et de revenir en ayant réussi. Et donc je pense qu'il y a la douleur, il y a aussi la peur d'échouer. Dont on n'imagine pas vraiment comme c'est difficile pour ces hommes-là. Oui. Comme c'est difficile pour ces hommes-là.
Et quand il va, je ne dévoile pas toute cette traversée que connaît votre père quand il quitte Ajar pour se retrouver à Paris, les galères de cette traversée, parce qu'elle est propre à lui, elle a une singularité à lui, mais elle est propre à beaucoup de gens qui quittent leur pays, de venir dans des conditions difficiles. La différence de langue, la différence de l'univers social, de l'univers culturel justement, et au moment où il est, il va commencer à vous raconter qu'il est à peu près établi, comment ça se passe? C'est vous qui forcez un peu les questions, vous dites à un moment donné que vous prenez le stylo et puis le carnet et puis vous prenez des notes, et il se livre facilement à se raconter?
Alors, effectivement, comme une journaliste, je lui pose des questions et je prends des notes. Il y a certains moments où il est très volubile et me raconte facilement ce qui s'est passé. Et puis, je sens qu'à certains moments, il est beaucoup plus dans la retenue. Parce que, alors déjà, il y a quelque chose que moi, je trouve assez fascinant, c'est que quand il arrive en France de manière irrégulière. Et il a encore peur aujourd'hui de donner le nom de la personne qui lui a fait traverser la Méditerranée, parce qu'il a peur que la personne ait des problèmes, alors que c'est quelque chose qui a eu lieu il y a 40 ans. Donc je pense que déjà il y a une sorte de fidélité et qui veut pas trahir, voilà, il veut pas trahir les gens qui l'ont aidé. Et puis je pense qu'aussi c'est pas facile de se rappeler les différentes épreuves qu'on a dû traverser, tout simplement.
Se rappeler ou les dire, parce qu'elles ont été très très difficiles, parce qu'il se rappelle de tant d'autres choses, votre père.
Exactement,
quand il
a une mémoire où il se rappelle des dates précises.
Des dates précises, le jour de leur arrivée, de son arrivée, le jour de l'arrivée de son épouse plus tard, etc.
Donc, exactement. Je ne saurais pas expliquer pourquoi est-ce que... Moi, j'ai tendance à penser que c'est de la pudeur et aussi peut-être un peu d'orgueil, mais c'est vrai que ce serait quelque chose à creuser.
Parce que raconter la difficulté, effectivement, c'est pas évident, et pourtant, ouais. Ils l'ont bien connu, la difficulté, ces hommes, quand ils ont quitté leur pays. Donc, tout le long de votre livre, ce qui me semble assez intéressant, c'est que les chapitres commencent par une phrase souvent courte. Je suis né le 1er janvier 1949. Et là va dérouler dans le texte, dans le chapitre, tout ce qu'il va vous raconter dans l'oralité que vous allez réécrire. Donc il y a une fidélité, j'en suis sûr, effectivement, ce qui va vous dire. Et même ne pas dire, puisque après vous pensez que ça a pu être comme ça, et en réalité il vous en avait pas parlé. Un peu plus tard il va vous parler de en 1975 quand il avait 26 ans, etc. Ouais. Il y a des dates qui sont importantes qui signifient dans votre relation et dans cet entretien.
Oui, exactement. En fait, c'est un peu des dates, si vous voulez, fondatrices de, par exemple, sa date de naissance. Alors, pour le coup, on la connaît pas parce que, comme il vient d'un village reculé de Mauritanie, il n'y a pas d'état civil, donc on ne déclare pas les naissances. Mais ça, je pense que les auditeurs de Beurre FM connaissent cette fameuse date du 1er janvier. Ensuite, la date de son départ, je pense que c'est une date aussi qui est très, très importante parce que c'est le début de l'exil. Et puis, il y a aussi la date de l'obtention de la nationalité française. Alors, la date de la naissance, du mariage avec ma mère, puis de la naissance de ses enfants. Et ensuite, la date de l'obtention, enfin, de la réintégration à la nationalité française.
D'accord. Voilà. Voilà des dates importantes, et ces dates, elles vont être dans, évidemment développées dans les chapitres parce qu'ils sont porteurs des temps de son histoire ici. Exactement. En France, de ses temps dans le travail aussi. Il parle aussi beaucoup de son travail. Il a fait, comme beaucoup d'hommes, plusieurs métiers, plusieurs misères, comme disent les anciens immigrés. Ils disent souvent ça comme ça. Donc il a besoin de raconter aussi tout ce qu'il a fait comme travail, comme Exactement. Et après, on reviendra sur, effectivement, ses enfants, la fratrie et tout ce qu'ils portent comme transmission, mais dans une deuxième partie.
Exactement, en fait. Alors, mon père, il a eu une éducation en arabe et il fait partie de la caste des marabouts. Ce sont les gens qui étudient le Coran. Donc, en fait, c'est une personne qui est très érudite. Seulement, quand il arrive en France, ses qualifications ne sont pas reconnues. Et puis, je pense que pour certains, l'exil, c'est souvent un déclassement. Donc alors que lui, c'était une personne qui était assez littéraire, assez érudite, qui connaissait parfaitement le Coran et qui l'enseignait, et ben quand il arrive en France, en fait, il se retrouve à faire des ménages dans les bureaux. Et puis son seul surclassement, en fait, ça va être de devenir éboueur à la ville de Paris. Donc quelque part, bon, pour lui, c'est forcément une amélioration de sa condition, mais ça reste des choses qui sont très éloignées de sa formation initiale.
Mais vous dites des belles choses, justement, sur quand il travaille dans les bureaux, sur le rapport qu'il entretient. Il a une dignité aussi à faire le ménage dans les bureaux. Certes, il porte une blouse grise, et ces hommes des bureaux ont des costards cravates, mais voilà, il se sent à égalité avec eux. Exactement. Donc je trouve que c'est intéressant aussi de porter cette voix de cet homme, de ce travailleur étranger en France, qui a cette dignité de tenir debout, alors que souvent on les rabaisse à être éboueur, à être femme de ménage, etc.
Exactement. C'est vrai qu'il appartient à une caste des nobles, et je trouve que en arrivant à Paris, il a gardé une certaine noblesse dans son attitude, parce qu'effectivement, il se sent pas faire des ménages dans les bureaux. Quelque part, il se sent pas rabaissé, hein, pas du tout. Il se sent quand même à la hauteur de ces personnes. Lui, bah écoutez, c'est sa fonction, il l'a pas choisi, mais c'est ce qui lui permet de subvenir aux besoins de sa famille, et il estime qu'en fait c'est être à la hauteur des gens qui bossent dans les bureaux.
Ils se sont pas rabaissés parce qu'ils voient pas les employés de bureau.
Les ménages dans les bureaux, il les fait soit très tard le soir, soit très tôt le matin, donc il ne croise pas ces hommes et ces femmes qui travaillent dans les bureaux.
Fanta Dramé, Hajar Paris, c'est le titre de votre livre, je rappelle, qu'il vient de paraître dans cette rentrée littéraire aux éditions Plon. On vous retrouve dans un instant.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h, Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Voix au chapitre, je rappelle que je reçois ce dimanche matin Fanta Dramé pour son roman, c'est le premier roman, Hajar Paris, c'est le titre de son ouvrage. Il vient de paraître aux éditions Plon dans la rentrée littéraire. Fanta Dramé, vous nous racontez dans ce livre le questionnement que vous faites avec votre père, qui est l'histoire de son exil, partir, quitter Hajar en Mauritanie, se retrouver ici en France. Vous nous livrez sa vie, vous nous livrez celle de l'exil, comment quitter son pays, partir dans un ailleurs pour trouver une vie meilleure, pense-t-on. On verra qu'on peut traverser quelques difficultés. Pour combien de temps rester en France? C'est aussi ça, l'exil. Et qu'est-ce qui a fait qu'on va retourner au pays ou pas? En tout cas, il y a sans cesse des allers-retours dans cette histoire de migration. Quand vous êtes en quête, si je puis le dire ainsi, de questionnement avec votre père sur son histoire d'exil, c'est parce que il était temps. C'est le déclencheur, on l'a entendu tout à l'heure. C'est effectivement quand vous êtes à Ajar, à l'enterrement de votre grand-mère, mais jamais vous avez pensé avant le questionner. C'était vraiment, c'est le déclencheur était là et c'était important pour vous. Exactement. Ça a tourné aussi dans votre vie, sans doute.
Exactement. Je trouve très impressionnant le fait que j'ai commencé à écrire à Ajar Paris, j'avais 26 ans, et le fait que je me sois jamais posé la question de savoir comment mon père était arrivé en France, c'est vrai que c'est quelque chose qui me questionne beaucoup. Moi, j'étais persuadée qu'en fait, mon père avait pris les papiers d'un de ses cousins et qu'il est arrivé comme ça en avion sur le territoire français, parce que c'est ce que j'avais vu faire quand j'étais plus jeune, sans vouloir dévoiler comment est-ce que les gens arrivaient sur le territoire.
Ah, mais c'est un classique, à Beurre FM, vous pouvez tout dire.
Voilà. Et c'est vrai que, même en le questionnant, je m'attendais pas à ce que l'histoire soit aussi romanesque, aussi forte. Honnêtement, je m'attendais pas du tout à ça. Le coup du bateau, je m'y attendais vraiment pas. Et puis surtout, ce qui me questionnait aussi, c'est que je savais quand même que mon père était arrivé en France en étant, et qu'il avait vécu en étant, ses premières années en France en étant sans papier. Et j'ai une petite sœur qui a 13 ans de moins que moi et qui ne savait même pas que mon père avait été sans papier. Et donc, je me suis rendu compte que, en fait, très peu de temps, on peut oublier, l'histoire de nos parents peut s'effacer. Et que c'était important de fixer leurs paroles et de garder une trace écrite pour eux déjà et puis aussi pour les générations futures.
Et aujourd'hui, quand dans la fratrie, on a entendu, comme vous, vous les avez entendues, les paroles de votre père, tout le monde a été à l'écoute et évidemment sensible à tout ce qui est raconté là, qu'il ne savait pas.
Parce que quand j'interrogeais mon père, en réalité, je me retrouvais pas seule avec mon père, je le faisais avec tous mes frères
et
sœurs.
Il y avait les frères et sœurs.
Qui m'entouraient, qui ne me prenaient pas trop au sérieux quant à l'écriture de ce roman, mais qui étaient quand même très intéressés parce que, bon, mon père, c'est quand même un conteur qui adore raconter des histoires, qui le fait de manière, un peu comme un comédien et que c'est toujours très intéressant de l'écouter. Et donc, on l'écoutait comme ça, sans savoir que ça allait devenir finalement un roman.
Mais il a fallu du temps pour qu'il commence à raconter. On le voit pas bien dans le livre. Il y a la date et puis après ça a pris du temps. Fallait revenir à la charge.
Moi j'ai mis du temps à vraiment me poser et à commencer à interroger mon père. Je lui avais dit ça comme ça. Je pense qu'en réalité je lui ai dit en fait pour présenter et qu'après quand il m'a demandé alors c'est quand que tu commences. Là je me suis sentie obligée de le faire. Donc ça m'a mis. Je crois que j'ai entre le retour d'Ajar et le moment où vraiment je commence à écrire. Ça a mis quand même un an avant que je lui dise on se voit ce soir et tu me racontes ce qui s'est passé.
Ça a mis un an et c'est le temps aussi où ça devait mûrir chez lui.
Peut-être.
Ça mûrissait sans doute chez vous dans la manière de l'écrire.
Exactement.
Mais lui aussi il se sentait.
Oui, ça doit être ça.
Il fallait du temps peut-être pour lui pour se livrer, se raconter parce que c'est pas facile.
Et de voir comme ça révéler son intimité. Donc oui, je pense qu'on avait tous les deux besoin
d'un temps
pour commencer vraiment le travail.
Et après, quand vous commencez à raconter son histoire, il n'y a pas que l'histoire du père en même temps dans le livre, hein, qu'il faut quand même aussi rappeler que vous décrivez aussi la fratrie, vous décrivez aussi l'entourage, la tante, comment vous allez construire, comme vous dites un petit peu dans cette manière qu'il a d'élever ses enfants. Il a envie aussi d'être le patriarche quoi dans la maison. Il reproduit la société africaine, en tout cas la cellule familiale, pour pas dire la société en général, mais le cercle familial africain dans les traditions, dans la culture, dans la langue et dans la religion aussi, puisque c'est un homme religieux et il tient aussi à transmettre aussi cela à ses enfants. Donc ça aussi, ça a été important pour vous dans votre construction à vous.
Exactement. Alors moi, quand j'ai commencé à écrire Ajar Paris, j'étais persuadée que j'allais raconter l'histoire de mon père de manière assez objective. Et finalement, je me suis rendu compte que je racontais l'histoire de mon père à travers mon propre prisme. Et forcément, il y a des choses qui diffèrent de ce qu'il m'a raconté et de ce que moi j'ai perçu. Et effectivement.
Et de ce que vous vivez peut-être.
Et de ce que je vivais, effectivement, parce qu'il y a des choses qu'il a vécues et j'étais présente. Et finalement, je me rends compte qu'on les a pas vécues de la même manière. Donc c'est vrai que comme le roman se présente comme un dialogue entre un père et une fille, ça parle déjà des immigrants et puis ça parle aussi de la situation des enfants d'immigrants. Comment est-ce que nous on vit en étant, en vivant dans un pays qui n'est pas le pays d'origine de nos parents? Comment est-ce que moi, personnellement, mon père est mauritanien, mais il a construit sa maison familiale au Sénégal, et moi, je suis née en France. Donc, en fait, qu'est-ce qui fait de moi une Française, une Sénégalaise, une Mauritanienne? Voilà, comment est-ce que... Il faut que je jongle avec ce millefeuille d'identité. Et comment, donc, à travers toutes ces identités, j'arrive à me construire mon propre patrimoine?
À la fois, vous dites jeune, mais c'est le lot aussi de ces deuxième et troisième générations.
Exactement.
Que de se construire avec l'apport, la richesse, parce que c'est bien ça. Évidemment, les questions de richesse, et vous le soulignez très bien et assez déterminé même, ce
oui,
cul
rigide,
entre deux chaises dont on nous renvoie régulièrement quand on est issu de l'immigration ne vous convient pas du tout.
Ah non, pas du tout. Moi, j'ai pas du tout le cul entre deux chaises. Je pense que j'ai le cul sur les deux chaises. Je me sens dans certaines situations très française. Et puis dans d'autres, je me sens très sénégalaise. Alors, pas encore mauritanienne, parce qu'en fait, on va pas souvent en Mauritanie en réalité. Quand on va au bled, on va au Sénégal. Et donc, c'est vrai que cette part de mon identité mauritanienne, je l'ai découverte quand je suis allée à Agen pour la première fois. Et quand j'ai décidé de raconter l'histoire de mon père. Donc, effectivement, je pense qu'on est capable de jongler avec ce millefeuille d'identité et qu'on n'a pas forcément besoin de choisir une identité.
Et qu'est-ce qui nous renvoie justement à ce choix, à votre avis? Là, on va quitter le roman pour aller dans de la sociologie. Parce qu'il y a un peu quelque chose de cet ordre-là en même temps quand vous racontez une histoire comme celle-là.
Je pense que c'est les gens qui ont besoin de la société qui a besoin de cataloguer, parce que moi, je me pose pas de questions. Enfin, je suis comme je suis et je me pose jamais la question de savoir si je suis française, mauritanienne ou sénégalaise. Je me pose cette question uniquement quand on me pose une question. Par exemple, je sais pas. Alors là, c'est pas forcément la culture, c'est plus le culte, mais la question de Noël, moi, je sais que quand j'étais petite, c'était très important pour moi de fêter Noël, parce que...
Ah, le père, il voulait pas, hein, au début.
Le père ne voulait pas, parce que c'était à l'encontre de sa religion, mais pour moi, comme tout le monde fêtait Noël, c'était très, très, très important. Et maintenant, en grandissant, bon, bah, ça a pas une si grande importance pour moi. Et c'est vrai que quand, par exemple, on me demande est-ce que tu fêtes Noël, je dis, bah, non, cette année, j'ai pas fêté, bah, les gens comprennent pas, mais pourquoi, mais t'es française, mais ça fait partie de la culture, etc. Oui, bon, bah, moi, c'est pas quelque chose qui me transcende ou qui est essentiel à ma vie.
Mmh. Mais dans des familles, ça se fête Noël. Après,
exactement.
D'ailleurs, votre père l'a accepté puisque.
Mais bien sûr. Voilà. Enfin, moi, parfois, je fais le Noël des sœurs, mais c'est pas une date qui est très, très importante pour moi, même si, bon, j'achète quand même mon calendrier de l'Avent, faut pas déconner, mais c'est tout. Et puis après, comme je suis, je parais très moderne, les gens aussi, comprennent pas, par exemple, que ils sont assez surpris quand je leur dis que je fais le ramadan, parce que ils ont pas du tout cette image de moi qui paraît très parisienne et donc pas forcément
parisienne et musulmane,
mais
hein.
Voilà, mais c'est vrai que les gens parfois ne comprennent pas que ça puisse coexister en nous, donc voilà, je pense que c'est surtout les questionnements des gens qui me ramènent à mon identité et à des questionnements sur mon identité.
Et dans quel état ça vous met, ça vous agace, et ça,
non,
ça,
moi, alors moi, ça
vous avez
pas.
Envie vraiment de montrer votre...
Alors moi, je sais qu'il y a certaines personnes, par exemple, qui n'aiment pas quand on leur demande de quelle origine elles sont. Moi, ça ne me pose absolument pas de problème. Je suis très à l'aise avec ça. J'ai pas l'impression que me demander de quelle origine je suis, ça nie un peu ça nie le fait que je sois française. Mais non, je suis très à l'aise avec ça. J'assume tout ce que je suis. Donc, au contraire, je pense que c'est aussi très important de faire comprendre aux gens ce qu'on est, de parler de nos cultures, de parler des origines de nos parents, etc. Je pense que c'est plus une richesse qu'autre chose.
Votre père, quand il, on va revenir à lui, quand il arrive à Marseille, il est perdu. Et il y a une, deux personnes qui vont détourner la tête quand il veut demander où est la gare Saint-Charles, enfin la gare, et pour aller à Paris, gare de Lyon.
Exactement.
Et il y a un homme qui va s'arrêter, voire même lui payer son billet de... C'est un geste fort qui a été important dans... Puisqu'il le raconte, 40 ans après, il raconte ça.
Exactement.
Ça veut dire qu'il y a des temps dans sa vie qui ont été des temps de solidarité auxquels il est attaché, puisque c'est aussi sa culture, le partage, la solidarité, vous en parlez aussi. Donc, ces temps forts sont importants dans l'immigration de celles ou ceux qui ont aidé l'autre, le migrant?
Bien sûr, parce que je pense que même si c'est, les immigrants font preuve de beaucoup de courage et d'abnégation, en réalité, l'exil, leur exil se passe bien parce qu'ils sont aussi aidés. Il y a aussi des personnes extérieures qui vont les aider. Donc, il y a cet homme à Marseille qui aide mon père et qui lui paye son billet pour aller à Paris. Il y a aussi des décisions politiques qui peuvent bouleverser des vies quand Emmanuel Macron, quand François Mitterrand décide de régulariser les sans-papiers. En fait, ça bouleverse la vie de ces immigrants. Mon père, à partir de là, il peut jeter la fausse carte d'identité qu'il avait et il peut se déplacer.
Avoir son titre de séjour de 10 ans.
Exactement, son titre de séjour et même après la nationalité française.
La naturalisation, du coup. Enfin,
pas une naturalisation, c'est une réintégration.
Une réintégration à la nationalité française, puisqu'il
est né dans un pays colonisé par la France au moment où il est né.
On vous retrouve dans un instant, Fontaine Ramé. On va poursuivre ce voyage à Jarre-Paris, qui est la vie de votre père. Ce livre vient de paraître à Jarre-Paris, aux éditions Plomb.
Voix au chapitre revient dans un instant. 9h, 10h. Voix au chapitre avec Samia Messaoudi sur Beurre FM.
Vous êtes toujours sur Beurre FM et ses voix au chapitre. Poursuivons notre rencontre. Je rappelle que je reçois ce dimanche Fontaine Ramé. Nous parlons de Ajar Paris. C'est le titre de son roman qui vient de paraître aux éditions Plomb. Il raconte la vie de son père. Son père a quitté Ajar en Mauritanie, a traversé des pays pour se retrouver à Paris. Il est seul d'abord. Sa femme va le rejoindre dans le cadre du regroupement familial et la fratrie va naître et Fontaine Ramé fait partie de cette fratrie. Et donc tout au long de l'émission, nous évoquons justement l'interrogation, les questionnements qu'elle a eu de vouloir en connaître sur la vie de son père qui a quitté sa terre d'origine. Peut-être que dans la vie de votre père, il y a cette volonté qu'on l'a aussi. À la fois, je suis très attaché à parler de singularité dans la vie de votre père, mais de rappeler aussi qu'elle est importante dans la grande histoire, évidemment. La vie d'un homme immigré, c'est l'histoire dans la grande histoire. Moi, j'aime souvent le rappeler. On terminera avec les mots de Faïz Aghan, parce qu'ils sont importants aussi. Mais et dans cette histoire singulière familiale de votre père, il y a une histoire d'éducation importante. Et je crois que ça aussi, ça a été important pour votre père que de donner et une éducation à ses enfants, une éducation mixte, on va le dire comme ça, oui. Avec cette double appartenance pour pas en jeter une, enfin en laisser une et puis garder la France, etc. Donc et vous il tenait vraiment à ça. Je pense que c'est important d'en parler.
Je pense que, alors, au début, avec la naissance de mes grands frères et grandes sœurs, il a été assez rigide sur l'éducation. Et clairement, il élevait en France des enfants qui étaient mauritaniens. Et donc, on était vraiment élevés, moi peut-être un peu moins parce que je suis arrivée un peu plus tard, mais en respectant vraiment la culture de son pays d'origine. C'est-à-dire que chez nous, on mangeait forcément sénégalais parce que ma mère est sénégalaise, on regardait les chaînes télé africaines, on écoutait de la musique africaine. Donc
Youssou N'Dour et pas Johnny Hallyday.
Bien sûr, voilà. Donc il nous a vraiment élevés comme il aurait élevé ses enfants en Mauritanie. Et puis après, forcément, quand on vit en France, il y a autre chose. Déjà, je pense qu'en arrivant à l'école, forcément, on est confronté à une autre culture. Et là, il faut qu'il deal entre sa culture d'origine et la culture de son pays d'accueil. Et c'est là qu'il a commencé un petit peu, je pense, à lâcher un peu du lest et à laisser la culture française nous imprégner. Mais il y avait une volonté, effectivement, et je pense qu'il a réussi quand même, parce que on est quand même des enfants d'origine mauritanienne et ça se voit aussi sur certains aspects de nos vies. C'était très important pour lui de ne pas s'oublier et de nous transmettre ce qu'il était.
Et vous l'écrivez d'ailleurs, vous écrivez dans le passage justement sur cette double culture, je relevais Youssou N'Dour plus que Johnny Hallyday et vous appreniez des pas de danse traditionnels, etc. Mais vous vous interrogez quand même sur le fait que quand vous entrez à l'école, vous êtes saisi du concept de double culture qui allait nous amener à nous interroger toute notre vie. Effectivement, on s'interroge toujours sur cette... Mais on a toujours tendance à parler des enfants d'émigrés en évoquant la difficulté de vivre entre deux cultures, on en a parlé, celle du pays de leurs parents et celle du pays dans lequel ils naissent et grandissent. Et en réalité, c'est le plus important de ce passage, en réalité c'est surtout plus difficile pour les parents qui doivent accepter de se soustraire, de sacrifier une partie d'eux-mêmes au profit d'un autre mode de vie, imposé inconsciemment par leur exil, avec la peur de se perdre.
Exactement. Il y a quelque chose qui est très bête, c'est que par exemple, moi, je parle très mal la langue de mes parents. Je la comprends, mais je la parle très mal. Et j'imagine que quand j'aurai des enfants, eh ben, je leur parlerai qu'en français, je leur parlerai pas en soninké. Et du coup, je me dis qu'en 2-3 générations, heureusement, tout ne porte pas, je ne porte pas tout sur mes épaules, mais en 2-3 générations, la langue peut disparaître. Et donc, c'est très, je comprends parfaitement, moi, nos parents qui sont assez rigides sur l'éducation culturelle qu'ils donnent à leurs enfants, parce que c'est une partie de leur histoire. Et ils ont peur qu'avec l'immigration, cette partie de leur histoire disparaisse.
Alors sur le questionnement, vous êtes enseignante, je l'ai rappelé en vous présentant en région parisienne, c'est ça ? Et vous à Pantin, on va tout dire. Hein. Aujourd'hui, il n'y a pas cours. Et vous enseignez quelle discipline, quelle matière ? Le français. Vous enseignez le français et vous avez à Pantin une configuration, j'imagine, d'élèves de tous horizons, on va le dire comme ça. Est-ce que vous auriez envie de leur dire qu'il est nécessaire, important pour leur construction à eux et pour leur histoire familiale, d'interroger leurs parents sur leur exil?
Oui, alors moi, j'ai des élèves qui sont eux-mêmes des exilés, parce qu'on a beaucoup d'élèves qui ne sont pas nés en France et qui sont arrivés il y a quelques années. Et j'ai aussi beaucoup d'élèves qui appartiennent à la troisième génération, si vous voulez, qui ont des parents qui sont
nés en France. Les parents sont nés en France.
Exactement. Oui, je pense que c'est très, très important. Alors moi, il y a quelque chose qui me frappe beaucoup, c'est qu'on a... Je sais pas pourquoi. Je crois qu'il y a plus de droit du sol. Il faudrait que je vérifie. Mmh. Mais du coup, j'ai des élèves qui, à 13 ans, peuvent obtenir la nationalité française. On leur demande à chaque fois s'ils veulent changer de prénom et prendre un prénom français.
Mais c'est encore comme ça.
Voilà. Et donc, à chaque fois, je leur demande, et du coup, est-ce que tu as changé de prénom ou pas?
Non.
Et quand même, eux, ils restent quand même très liés à leur prénom de naissance et qui correspond
souvent. C'est un prénom familial.
C'est ça qui, déjà, parce que dans notre culture, quand on donne un prénom, c'est pas un prénom que nos parents ont choisi parce que c'est un prénom qui leur plaisait, c'est un prénom qui renvoie à un oncle, une tante, exactement, à un grand-père. Et donc, ils sont quand même très attachés à leur prénom. Je pense que parce que c'est le prénom que leurs parents leur ont donné et aussi parce que c'est un prénom qui les renvoie à leurs origines. Et ils sont nés en France, ils parlent français, ils vivent à la française, ils ont, je pense, quand même le droit de garder quand même un petit truc qui leur rappelle d'où ils viennent. Je pense que c'est très important pour moi.
Oui.
Et pour eux.
Et pour eux. Alors, on a parlé de Faïza Ghen, en introduction, vous rappeliez que c'était une rencontre avec elle. Elle avait eu le plaisir de lire votre ouvrage et vous avez peut-être encouragé, en tout cas vous avez accompagné, puisque
ouais,
dans ce livre,
ça même, ouais.
Puisque elle fait la préface de votre livre et, ouais. Et je voudrais retenir...
Et elle me présente à sa maison d'édition.
Voilà, alors oui.
Elle nous a montré le chemin et moi elle m'a même ouvert la porte, donc...
Voilà, un vrai compagnonnage, à la fois dans une histoire commune presque, puisque fille d'immigrée, oui, elle aussi, elle avait publié La Discrétion, qui était un magnifique, ouais, livre, nous à Beurre FM, chaque parution, chaque invitation, évidemment, je vous attendrai pour le deuxième roman, ne vous inquiétez pas, Fantin. Mais elle écrit ceci, dès les premières lignes, son histoire, la vôtre donc, m'emporte. Ce n'est pas seulement un roman, mais un voyage qu'elle nous livre ici. Et je reconnais ce sentiment d'urgence qui me touche, celui de collecter et d'inscrire nos histoires, les trajectoires d'exil de nos parents dans le récit national, pour nous sentir pleinement appartenir à la société dans laquelle nous vivons. Valorisons les parcours de nos parents, c'est une manière de prendre notre place.
Exactement.
Ça vous parle ?
Oui, bien sûr. Parce que je pense que nous, on grandit, comme je l'ai dit précédemment, mon père était homme de ménage puis éboueur. Et quand on grandit, on a l'impression que... Moi, j'ai grandi à Belleville, et à Belleville, c'est vrai qu'il y avait, quand j'étais jeune, il y avait encore une mixité sociale, et j'étais dans la classe d'élèves qui avaient des parents médecins ou députés, etc. Et forcément, on a l'impression, en grandissant, et maintenant, j'ai un peu honte d'avoir pensé ça, que nos parents sont peut-être moins bien parce que ils ont des métiers qui sont moins honorables, je dirais, mais en réalité, derrière ce job d'homme de ménage ou d'éboueur, il y a une histoire qui est tellement extraordinaire, vraiment dans le sens qui sort de l'ordinaire, où le parcours est incroyable. Je pense que clairement, aujourd'hui, je peux dire que nos parents ont été à la hauteur, et même, je pense que quand on a vécu ce qu'ils ont vécu, je trouve que c'est déjà pas mal de s'en être sorti, et d'avoir réussi à s'intégrer dans la société française, à avoir appris la langue, à avoir élevé des enfants qui finalement s'en sont quand même relativement bien sortis.
Ils ont fait le parcours du combattant.
Exactement.
C'est des vrais combattants et combattantes.
Voilà, je pense que c'est très important de valoriser leur parcours et de montrer ce qu'ils ont fait. C'est assez incroyable.
Vous connaissez ces mots, si tu ne sais pas où tu vas, n'oublie pas d'où tu viens. C'est aussi votre boussole à vous.
Exactement, parce que c'est vrai que Alors moi, je suis cataloguée un peu comme la française de la famille. Je ne saurais
la française ou la parisienne.
Ouais, mais je pense que dans ma famille, la française et la parisienne, c'est la même chose. Mais oui, je saurais pas expliquer pourquoi, mais en même temps, je suis entièrement d'accord avec avec cela. Oui, je pense que honnêtement, en allant à Ajar, j'ai perçu cette part de mon identité. Et même si je décris Ajar de manière un peu parfois péjorative, j'ai beaucoup de tendresse pour ce village. Et je pense que c'est très important.
On le voit bien dans l'écriture même.
Ah oui, c'est vrai.
Oui, oui.
Parce que parfois on me dit, non mais tu quand même, Ajar, t'exagères.
Ah bah il n'y a rien Ajar. Bah
il
n'y
a rien
Ajar,
c'est factuel. Mais bon, écoutez, ça gêne quelques personnes, mais toujours de manière assez bienveillante. Et je pense que c'est très important de me rappeler que toute Parisienne que je suis, pour que je sois la Parisienne que je suis aujourd'hui, il y a un jour, un homme qui est né à Ajar, qui a quitté Ajar, et qui est arrivé en France et qui a fait que je suis devenue celle que je suis aujourd'hui. Mmh. Si j'étais née à Ajar, j'aurais peut-être sûrement pas eu le parcours de vie que j'ai aujourd'hui.
Cet homme est votre père. Ouais. Il a lu votre livre, votre père?
Ou non, il va le lire? Non, il l'a pas lu parce que il est pas assez à l'aise en français pour lire un roman. Il faudrait que ce soit traduit en arabe, c'est la langue qu'il maîtrise le mieux. Enfin, la langue, parce que pour le coup, sa langue d'origine, c'est un dialecte, donc. Mais on lui a lu certains passages, voilà. Mais j'ai vraiment.
Le on est impersonnel, c'est qui le on?
Mes frères et sœurs et moi.
D'accord. Et vous? Voilà. Et vous êtes soutenus, donc la fratrie porte ce livre.
Exactement. Mais j'aimerais vraiment qu'il le lise parce qu'au début je me disais bon c'est pas grave, c'est son histoire, il la connaît. Mais en fait c'est son histoire à travers les yeux de sa fille et je pense que finalement le récit n'est pas le même. Et voilà, je voudrais vraiment qu'il ressente la tendresse.
La tendresse
respect,
et l'émotion aussi.
Voilà,
qui
l'émotion
est portée dans ce livre, voilà.
Pour son parcours et pour lui en général.
Très très belle histoire d'un homme, d'un père immigré. Vous donnez une signification à l'immigration assez pas particulière, mais vous pensez que on dit pas immigré, on dit des migrants.
Je préfère le terme émigré au terme immigré parce que déjà le terme immigré, je trouve qu'il est il a une connotation qui est très péjorative aujourd'hui.
La définition même linguistique, c'est que on quitte un pays, donc on immigre.
C'est ça, mais je pense que
quand on repart qu'on émigre.
Mais je pense que le terme émigrant, quand on parle d'émigrant, on met plus l'accent sur le parcours. Ouais. Plutôt que sur le fait d'avoir quitté son pays, d'être arrivé dans un autre pays. Et moi, ce qui m'intéressait dans Ajar Paris, c'était vraiment de raconter le parcours de mon père. C'est plus le parcours qui m'intéressait que le but.
Vous êtes aujourd'hui, avec la parution de ce livre, dans un sentiment où tout a été dit, où vous en voulez plus de la part de votre père
Alors déjà, je pense qu'il m'a déjà beaucoup dit voilà, ouais. Et c'est déjà pas mal, parce que c'est pas forcément des choses dont on parle... chez nous, donc je trouve que déjà c'est pas mal. Après, ce qui me fait plaisir, parce que je l'ai entendu plusieurs fois, c'est des gens qui me disent ah mais moi aussi je vais demander à mon père de voir
voilà,
son histoire.
Voilà, et j'allais terminer voilà. Là-dessus où effectivement il fallait peut-être que ça va donner envie à
c'est ça exactement
à des générations de d'enfants d'immigrés de raconter
travail.
Leur histoire. Voilà. Merci infiniment d'être venu ce dimanche matin à Beurre FM.
Merci à vous.
Quentin Dramé, Ajar Paris, c'est le titre de votre livre. Il vient de paraître aux éditions Plomb et c'est un grand plaisir de vous avoir rencontré ce matin pour ce premier roman.
Merci.
On en
vous.
Attend d'autres. On se retrouve la semaine prochaine pour un autre rendez-vous de Voix au Chapitre. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir à tous, au revoir à toutes.
Retrouvez Voix au Chapitre tous les dimanches de 9h à 10h et en podcast sur beurrefm.net et l'appli Beurre FM.